Léo Barinski, vous serez à la baguette pour cette création de Fouille le Narcisse que nous découvrirons ici même à l'Opéra d'Avignon. Un ouvrage d'aujourd'hui avec une compositrice ô combien vivante. Mm-hmm. Comment avez-vous réagi lorsqu'on vous a proposé cette partition et ce livret ?
Alors, quand Frédéric Rulz m'a appelé pour me proposer le projet, naturellement, j'ai dit oui immédiatement. J'ai la chance dans ma carrière de faire beaucoup de créations, de travailler avec beaucoup de compositeurs et compositrices vivantes. Et donc, j'ai accepté immédiatement. En plus, Frédéric avait déjà une idée du sujet qu'elle allait être abordé, donc m'a expliqué immédiatement cette idée d'enchevêtrement de trois histoires d'aujourd'hui. Je ne connaissais pas Joséphine Stephenson à l'époque, donc du coup, bien sûr, la première chose que j'ai fait quand j'ai raccroché, c'est d'écouter sa musique. Voilà, j'ai su à ce moment-là que ça allait être un projet vraiment passionnant. J'avais en plus envie depuis longtemps de travailler avec Frédéric Rulz, que je connaissais depuis qu'il avait travaillé à l'orchestre et à l'opéra de Rouen. C'est un metteur en scène brillant, donc je savais aussi que la relation avec lui allait être très agréable. Donc voilà, je m'attendais vraiment à une production qui allait être passionnante, enrichissante, et je dois dire, je ne suis pas déçu parce que je crois que l'ouvrage est vraiment digne d'intérêt.
Une question au chanteur, puisqu'au départ vous avez une formation de chanteur, comme Joséphine Stephenson d'ailleurs, vous avez commencé par la maîtrise, oui, c'était une maîtrise de garçon. Parce qu'il y a des voix assez particulières, il y a une contralto, il y a une soprane, il y a une chanteuse qui ne vient pas a priori du lyrique. Vocalement, quelles sont les particularités, voire les difficultés de la partition ?
C'est une excellente question effectivement, parce que je pense qu'elle est fondamentale à l'opéra. C'est quelle vocalité ? Comment est-ce qu'on chante ? Puisque ce qui fait exister un personnage à l'opéra, c'est sa voix avant tout. Un personnage d'opéra, c'est une voix. Et ce qui est intéressant, c'est quand cette voix aussi va puiser dans ce qui fait la modernité. Et là, dans la distribution, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a Kate Huguette, qui est une chanteuse qui ne vient pas de l'univers du lyrique, qui, elle, chante de la musique variété ou de la pop. Et donc, elle a une technique très particulière. C'est une autre façon de poser la voix. Et comme Joséphine l'utilise, eh bien, tout à coup, il y a comme une nouvelle palette de couleurs qui s'ajoute. Donc, ça crée aussi un personnage qui est dans son temps. C'est le personnage le plus jeune de toute la distribution. Et dès qu'elle chante, on la situe exactement dans une forme de modernité, dans une forme de jeunesse, dans une forme aussi de revendication qui va avec la jeunesse généralement. À côté de ça, il y a le duo des deux femmes qui sont en couple, donc She and Her, qui sont deux femmes qui ont des timbres bien campés aussi, une soprano lyrique, une alto, donc ça c'est intéressant aussi d'avoir ce duo de voix qui permet aussi des associations intéressantes, une chanteuse lyrique, Patricia Tschioffi, et une voix de baryton basse qui est une voix un peu plus polysémique, je dirais, qui a plusieurs teintes pour incarner deux personnages, donc le midwife, le sage-femme, et aussi le gardien. Donc voilà, c'est intéressant parce qu'il y a l'univers du théâtre, de l'opéra, l'univers du lyrique qui est là, dans des voix et des techniques que l'on connaît déjà, traditionnelles, et cette émission de la technique pop qui n'a rien à voir normalement avec l'opéra et qui là vient faire ses débuts dans l'opéra.
Comment vous pourriez définir les relations que vous avez avec la compositrice, puisque là on a une compositrice vivante, ouais. Elle est là, donc je suppose qu'il doit y avoir un dialogue permanent entre vous deux.
Oui, c'est ce qui est absolument génial quand on fait de la création, c'est quand on est au contact avec le créateur, parce que combien de fois lorsque j'étudie les partitions de compositeurs, compositrices qui sont morts depuis très longtemps, je me dis, mon Dieu, qu'est-ce que j'aurais comme question à lui poser à Mozart, à Beethoven, à Brahms ? Parce qu'il y a des choses dans les partitions qu'on lit, mais on aimerait avoir de temps en temps leur regard. Et bien là, on l'a. Finalement, on a une partition, mais on a aussi directement le créateur ou la créatrice et on comprend beaucoup plus de choses. En plus, Joséphine Stephenson, c'est une compositrice qui a déjà beaucoup de métiers. C'est déjà son deuxième opéra. Elle a une idée très précise de ce qu'elle veut entendre. Donc, elle me pousse aussi de temps en temps à aller plus loin dans mes analyses, dans la façon de détailler les choses. Elle est très intéressée sur les intentions, trouver l'intention juste. Et donc, tout ce travail-là, ça a été très intéressant. Je dirais que la part la plus enthousiasmante a été vraiment le tout départ, lorsque finalement, on confrontait nos idées. J'avais la partition, j'avais le livret, et on a commencé à travailler avec les chanteurs. J'avais des idées. Des fois, elle venait compléter les idées que Joséphine avait eues. Des fois, elles n'étaient pas forcément les mêmes. Donc, on a essayé d'accorder un petit peu notre vision et de proposer une dramaturgie musicale qui fonctionne. Donc voilà, le travail est vraiment très intéressant avec Joséphine. Il est d'autant plus que c'est une compositrice qui est jeune, mais déjà très expérimentée.
Vous êtes également à l'origine de deux ensembles vocaux. Et vous travaillez aussi bien dans la musique ancienne, la musique dite savante, que la musique d'aujourd'hui, qui est aussi une musique savante. Et puis, j'ai eu l'occasion d'écouter une version très originale du Boléro de Ravel. En fait, il y a à la fois le respect, évidemment, de la partition, de l'œuvre et même du chef-d'œuvre, et en même temps, il y a une volonté de revisiter. C'est ce regard que vous portez sur la musique dite classique en général.
Oui, merci pour cette question. Effectivement, interpréter, c'est toujours questionner les œuvres. Je reste très humble par rapport aux chefs-d'œuvre, très respectueux. Merci de le souligner. Il ne s'agissait pas de faire le boléro de Ravel pour cœur en essayant de dénaturer l'œuvre, mais juste d'avoir un autre regard dessus et de voir qu'en fait, cette œuvre peut fonctionner même lorsqu'on lui ôte l'orchestration initiale et ce geste incroyable de Ravel. C'est un exemple parmi tant d'autres. Et pour votre question concernant les répertoires, effectivement, je me dis qu'au XXIe siècle, on a une chance incroyable, c'est qu'on a accès à 1000 ans de musique quasiment derrière nous, de la musique grégorienne, en passant par la musique de la Renaissance, musique baroque, classique, romantique, tellement de chefs-d'œuvre, tellement de génies qui nous ont laissé ces partitions, et on a l'occasion de les donner. Et je me sentirais privé de quelque chose si je ne faisais que de la création, si je ne faisais que de la musique romantique, que de la musique baroque. J'ai l'impression qu'on a besoin en tant qu'interprète et qu'être humain d'être nourri par toutes ces périodes. Et on ne peut pas comprendre, par exemple, la musique de Brahms si on ne connaît pas la musique de Bach, si on ne connaît pas la musique de Schütz. On ne peut pas comprendre la musique de Debussy si on n'a pas vu avant la musique de Rameau, la musique de Berlioz. Enfin, je pense que tout ce fil conducteur, on doit, comme interprète, le connaître, puisque c'est ça qui nous donne un regard vraiment le plus complet. Et en même temps, savoir qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, on doit s'adresser aussi au public d'aujourd'hui et que le public a le droit aussi à écouter des choses nouvelles, à être surpris, à être des fois un petit peu bousculé. Je suis contre l'idée qu'il faudrait donner à entendre au public que ce qu'il attend. Au contraire, moi, je suis pour donner ce qu'il pourrait avoir envie d'entendre ou ce qu'il ne connaît pas encore. Des fois, ça demande un effort, mais je pense que cet effort est récompensé au centuple pour le public qui veut bien le faire.
J'ai assisté à un extrait de répétition où là, pour l'instant, il n'y a que le piano. Je pense que l'orchestre va arriver à partir de la semaine prochaine. Et c'est vrai que la partition de Joséphine de Stephenson, c'est une musique tonale. Mais il n'y a pas de grands airs, même si il y avait un passage avec Patricia Tchoff qui était déjà très poignant, alors que je suppose qu'elle n'était pas à fond, si on peut dire. Et en même temps, il y a vraiment des nappes musicales, il y a une superbe apparition du chœur. Est-ce que ça signifie que le chef il doit se fondre justement dans cette ambiance? Parce que j'ai l'impression que l'atmosphère, le rythme, l'ambiance jouent un rôle très important dans l'ouvrage.
Oui, ça va être mon souci principal dans cette œuvre. Il va être de plusieurs ordres. Le premier, c'est de toujours laisser la place au chanteur, c'est-à-dire que l'orchestre ne vienne jamais dévorer. Mais ça, c'est l'enjeu dans n'importe quel opéra, je dois dire. Et ensuite, c'est effectivement ce que vous dites, de voir que la musique de Joséphine Stephenson est une musique de coloriste. Et que ces couleurs, il va falloir que je les soigne particulièrement. Et que si jamais ces couleurs ne sont pas parfaitement distinctes, on pourrait avoir une musique qui ne soit qu'illustrative. Or, ce n'est pas le cas. Je pense que la musique est beaucoup plus dramatique, dramaturgique qu'il n'y paraît. Elle vient effectivement souligner les voix, mais elle vient aussi de temps en temps comme traduire les sentiments, tous les troubles qui peuvent traverser les personnages. Et je pense que c'est mon rôle en tant que chef de faire en sorte que cette mise en scène musicale soit immédiatement perceptible par le public.
En ce qui concerne l'orchestre, qui est quand même un orchestre qui travaille plutôt sur un répertoire classique, cette forme de musique, bon, évidemment, c'est de très bons musiciens, ils peuvent s'adapter à tout, mais est-ce qu'il y a quand même une période quand même de transition?
Oui, il y en a une, nécessairement. La différence avec le répertoire, c'est que chaque musicien de l'Orchestre d'Avignon, lorsqu'il va jouer une symphonie du répertoire, une symphonie de Beethoven, de Brahms, de Schumann, de Mendelssohn, je pense que chaque musicien a une idée avant même de jouer de la musique qu'il va interpréter, de la façon de la faire. Avec Joséphine, tous les codes sont inventés. Alors très vite, naturellement, les musiciens font comme vous, comme moi, ils vont faire des ponts avec des musiques qu'ils connaissent déjà en disant « Tiens, ça m'évoque cette musique-là, donc on va essayer d'aller dans ce sens-là. » Donc il faut leur laisser le temps. C'est effectivement une musique qui demande un temps d'appropriation, d'où un temps de répétition assez large pour que chaque musicien s'en imprègne.
L'expression de coloriste, qui je trouve est une très belle définition du style de Joséphine Stephenson, est-ce que cette expression vous est arrivée tout de suite lorsque vous avez lu les premières partitions ou est-ce que c'est venu progressivement?
Non, je dois dire, c'est la première chose qui m'est venue, alors pas quand j'ai lu le chant piano, mais quand j'ai eu la partition d'orchestre. Et c'est la première chose que j'ai dit à l'orchestre ce matin lors de la répétition. Je leur ai vraiment fait comprendre que leur partition pouvait paraître, les parties séparées, hein, je parle, un peu éclatées, éparses, avec beaucoup de silence, et ce qui est difficile pour eux d'avoir une image globale de la musique tant qu'ils ne sont pas réunis tous ensemble. C'est pas le cas dans une symphonie romantique. Dans une symphonie romantique, le premier violon qui a sa partie a quasiment 90% de la musique dans sa partie. Là, ce n'est pas le cas. Donc, effectivement, cette musique de coloriste, j'ai tout de suite attiré l'attention de l'orchestre, de dire, voilà, regardez, essayez de voir quand les thèmes se connectent les uns aux autres, lorsque vous prenez le relais d'un instrument, lorsque vous passez la main à un autre instrument, lorsque vous doublez un autre instrument. J'ai vraiment attiré l'attention des musiciens là-dessus. Et c'est la première chose qui m'est apparue, et Joséphine me l'a confirmé, mon intuition était assez juste.
Une dernière question concernant les voix. Patricia Tchoff, oui. Elle est venue à Avignon, je me souviens d'une mémorable Traviata. une sublime Lucia de la Mer Mourme, mais c'était à Orange, c'était il y a quelques années. Vous avez quand même de beaux instruments aussi sur le plateau. Hein.
Oui, j'aime beaucoup vos questions parce que j'aime bien qu'on puisse parler de la voix aussi comme d'un instrument, et d'un instrument qui a une palette en fait. J'aime bien dire aux chanteurs lorsqu'on travaille, ose, prends des risques. On est là pour essayer. Et même si ça craque de temps en temps ou si c'est à côté, c'est pas grave. Et Patricia Schuffi, c'est une artiste extraordinaire pour ça. Parce qu'elle a déjà une connaissance du répertoire tellement immense. Elle a chanté Lucia, elle a chanté Gilda, elle a chanté tous les grands rôles. Patricia, en plus, c'est quelqu'un qui est très très sensible immédiatement à la scène, au texte. Donc on sent qu'au moment même où elle commence à chanter, il y a déjà tout un personnage qui est forgé dans sa tête. Et donc il y a une force de proposition qui est très enthousiasmante et qui, je pense, est un bon guide aussi pour les autres chanteurs ou chanteuses qui sont peut-être plus jeunes dans le métier, qui ont moins d'habitude. Et je pense que c'est très intéressant quand on travaille avec des chanteurs comme Patricia parce qu'ils vous nourrissent en fait tout le temps. Et comme ils n'ont aucun doute sur leurs moyens, parce que c'est des gens qui ont une technique incroyable et un métier de scène incroyable, et bien c'est des gens très inspirants.
On se revoit dans une semaine.
Avec grand plaisir, merci beaucoup.